Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
C'est la Catalogne, c'est Paris. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour, c'est la France, bien évidemment, et c'est Paris depuis le mois de septembre, oui. Un peu plus d'ailleurs.
Ce livre, Zemmour, l'anti-républicain, c'est un réquisitoire, c'est aux éditions L'Observatoire. Et je lisais juste ce que vous dites, c'est le zemmourisme, pour vous, c'est l'anti-humanisme. C'est anti-républicain, anti-humanisme, c'est un anti-tout, quoi, Zemmour.
Bon, moi, comme beaucoup de Français, je suis passionné d'histoire, c'était mes études par ailleurs. Et puis j'essayais de comprendre pourquoi, depuis longtemps, il essayait de manipuler un certain nombre de faits historiques majeurs. L'affaire Dreyfus, la collaboration, Pétain-De Gaulle, cette polémique d'ailleurs, là, honnêtement, très anti-humaniste sur la départation des Juifs français et des Juifs étrangers. Alors, il ne le fait pas uniquement par le goût de la controverse historique, mais il le fait pour mettre cette histoire, déformer cette contre-histoire au profit d'un projet politique pour aujourd'hui, qui est en finir avec cette frontière, ce mur qui existait entre la droite et l'extrême droite, pour réunir, c'est ce qu'il a dit l'autre soir encore sur BFM, pour réunir l'ensemble des droites, pensant que lui peut le faire, alors que Marine Le Pen, à cause de son père, du nom même Le Pen, des origines collaborationnistes du Front National, était empêché de le faire. Et les faits historiques qu'il manipule, notamment l'affaire Dreyfus, évidemment, en 1940, qui était la revanche aussi, pas seulement des anti-Dreyfusards, c'est une manière de dire qu'il n'aime pas la République. Voilà, mais je pense qu'il fallait démonter les manipulations et les mensonges, même si, nous y reviendrons, ça ne suffit pas, évidemment,
pour le contrer. Il est le produit de quoi, Éric Zemmour? Pourquoi ça marche?
Bon, je l'ai dit il y a déjà plusieurs mois, enfin, c'est pas très original, je reconnais, je le ressouligne dans le livre, il est le produit d'erreurs, de manques, de nos faiblesses, bien évidemment. Il est aussi le produit, sans doute, du sentiment qu'éprouvent beaucoup de Français, il faut le regarder ainsi, qu'on a aussi, de l'autre côté, manipulé l'histoire, on a remis en cause ce qu'est notre histoire nationale, une forme de continuité historique. Il est aussi le produit d'une forme de revanche ou d'une volonté de voir une forme de fierté. En tout cas, cela expliquait sans doute ses succès de librairie et d'audience sur une chaîne concurrente.
C'est un des seuls, alors peut-être qu'il en parle mal, mais c'est un des seuls qui parle de la France. Dans cette campagne, moi je suis assez frappé, c'est l'un des rares candidats à parler de la France. Les autres parlent des Français, il faut augmenter ça, il faut faire baisser ça, il faut supprimer des fonctionnaires, etc. Lui, il parle de la France. C'est peut-être ça aussi, son originalité, et ce qui peut aussi séduire une partie des Français. Parce qu'il parle d'un destin de la France, il parle de l'histoire de la France dans le monde, de la civilisation française.
Oui, vous dites sous une autre forme ce que je viens de dire, et vous avez raison.
Mais pourquoi les autres ne le font pas?
S'il faut leur poser la question. Là, précisément dans la deuxième partie du livre, j'essaie d'expliquer et de montrer qu'il faut un récit national, républicain, bien évidemment, même si c'est compliqué. Bien sûr, et peut-être ceux qui nous écoutent et nous regardent, les préoccupations principales, c'est évidemment comment on sort de cette pandémie, le pouvoir d'achat, l'état de l'école, les problèmes de sécurité ou d'immigration, la place de la France dans l'Europe et dans le monde, etc. Ce sont ça les vrais sujets. Mais la France est ainsi, c'est un pays qui parle au monde depuis toujours, qui pense que ses valeurs sont d'abord, et je crois que c'est juste, des valeurs universelles, qui peut éprouver un sentiment de perte d'identité, d'une forme de décadence ou de déclassement, de déclin, bien évidemment, même si les courants déclinistes existent dans notre vie politique depuis bien longtemps. D'ailleurs, Éric Zemmour s'inscrit dans ce courant décliniste, en plus de s'inscrire dans le courant de Charles Maurras, mais il parle de la France. Il redonne une forme de fierté, y compris d'abord peut-être dans l'électorat, on va l'appeler qui était celui de Marine Le Pen, qui a eu le sentiment que Marine Le Pen ne parlait plus de ces de ces sujets. Et puis une forme de fierté depuis toujours. Là, ça ne nous rajeunit pas, mais les émissions de Castelot, de Decaux, bien évidemment, là, c'est plus récent, celle de Stéphane Bern. Les siennes aussi, les controverses historiques. Passionne beaucoup de nos Français. Tous les grands rendez-vous, les débats sur l'histoire sont intéressants. Bon, donc, oui, il faut parler de la France. Et lui s'empare de cette manière de la France, lui redonnant une forme de fierté en disant, il y en a assez de la repentance, de la remise en cause, tout le débat sur le déboulonnage des statues. Donc, du coup, oui, il a intéressé les Français de ce point de vue-là. Il s'est inscrit dans la campagne électorale. Et quoi qu'il arrive, à la fois sur ce sujet-là, et sur les thèmes qui sont les siens et qui sont en train de polluer, enfin en tout cas d'influencer une grande partie de la campagne, il a gagné quel que soit son score.
Oui, Barbara Lefebvre,
je vous rejoins sur ce point. Néanmoins, que ce soit Decaux, Max Gallo, Stéphane Bern, etc., ce ne sont pas des gens qui choisissent ou qui ont un regard biaisé sur les faits historiques. C'est-à-dire que quand Stéphane Bern vous présente la vie de François Ier, il va pas choisir un angle dans la vie de François Ier pour, derrière, vous faire passer une idée politique sur la France d'aujourd'hui, de 2020. C'est-à-dire qu'en réalité, le travail que fait Éric Zemmour, c'est pas seulement un travail d'emprunt historique,
c'est un
travail d'emprunt et de falsification. C'est pour ça que votre livre vient en complément d'ailleurs de l'ouvrage de l'historien Laurent Joly qui s'appelle « La falsification de l'histoire », qui est aussi un petit livre comme le vôtre court, et c'est très bien que ce soit des petits livres courts qui puissent être accessibles au grand public pour démonter factuellement les manipulations historiques. Parce que Éric Zemmour s'exprime dans un contexte qui est un contexte d'immense déculturation historique. Et ça, c'est important. Et la déculturation historique, elle est largement à mettre au débit de l'éducation nationale. Parce que c'est nous, les professeurs d'histoire-géographie, qui avons été... arraché une partie de notre capacité aussi à transmettre certaines de ces connaissances. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des générations qui sont relativement déculturés historiquement et qui peuvent être facilement
éblouis par
ça. Mais tu disais qu'il y a des candidats qui n'ont pas de vision. Jean-Luc Mélenchon, il parle de la France. Alors c'est la France de la créolisation, etc. Oui. Mais il a une vision. On n'est pas d'accord avec, on est d'accord avec. Mais il n'y a pas que Zemmour. Mais je pense effectivement que c'est pas seulement l'histoire, c'est la falsification de l'histoire. Et c'est des éléments d'ailleurs que vous relevez dans votre livre et qui sont importants, notamment sur la question de l'Algérie, la façon dont il réinterprète la question de l'assimilation en Algérie.
Il y a trois éléments importants et Barbara Lefebvre a raison de parler du livre de Laurent Joly, qui est un grand spécialiste de Vichy et qui le centre d'ailleurs sur cette période. Parce qu'en plus, il y a un moment, il y a toujours des controverses, des interprétations d'ailleurs, on voit bien, je sais pas, sur Louis XIV, la fin de Louis XIV, sur Bonaparte et Napoléon, sur le rôle de Napoléon III dans la modernisation de la France.
Même de Gaulle.
Et sur De Gaulle. Et y compris encore aujourd'hui, par exemple, c'est ce que dit Laurent Joly dans ce livre, là on rentre vraiment dans des choses de détail. Par exemple, le grand historien américain que Zemmour attaque en permanence, Paxton, mais qui a été essentiel pour comprendre ce qui s'est passé, est passé, lui, à côté d'une chose, c'est-à-dire le rôle des Français dans la protection des Juifs. Donc, on a toujours des débats. Mais en revanche, sur l'innocence du capitaine Dreyfus, quand même, il prend, lui, le parti des anti-Dreyfusards en disant « Dreyfus, c'est peut-être pas aussi clair que cela ». Non, c'est très clair. On l'attaquait parce qu'il était allemand. Non, il n'est pas attaqué parce qu'il était allemand. D'abord, il est alsacien. Son père est parti d'Alsace, annexé par l'Allemagne parce que c'est un patriote. Et le jeune Dreyfus devient militaire parce qu'il veut servir son pays. Et on l'attaque parce qu'il est juif. C'est le complot, la trahison, parce qu'il est juif. Et on peut reprendre. Oui, donc c'est une falsification mise au service. Et sur l'Algérie, c'est au fond l'idée que ceux qui ont torturé ont eu raison.
Manuel Valls, vous restez avec nous. Question du docteur Marty, de Mourad Boudjelal dans un instant. Suite de cette discussion avec Manuel Valls autour de Éric Zemmour, appelé l'anti-républicain, c'est le titre du livre. À tout de suite.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avec aujourd'hui dans les GG Manuel Valls et ce livre pamphlet Zemmour l'anti-républicain. C'est Manuel Valls qui règle ses comptes avec Éric Zemmour, ou plutôt sa manière de voir l'histoire de France et d'être une espèce de prophète du malheur en fait, et de se poser, en fait il fait un scénario du pire en disant si vous voulez l'éviter, l'homme providentiel c'est moi, c'est votre théorie, c'est ce que vous développez dans le livre. Mourad Boudjelal.
Bonjour monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Non, simplement moi ce que je pourrais vous reprocher dans ce bouquin, c'est que vous intellectualisez le racisme de Zemmour. C'est beaucoup plus simple que ça. Zemmour, il n'est pas besoin d'aller chercher dans l'histoire de France. C'est simplement Zemmour a des peurs, a des craintes, a des angoisses, et il pense qu'aujourd'hui la France va à un grand emplacement. Et pour synthétiser de façon façon très simple. Ils pensent tout simplement qu'il y a trop d'Arabes dans ce pays et qu'ils vont remplacer. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher dans l'histoire, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Après, c'est vrai que c'est mieux de le présenter comme ça.
Non, c'est pas mieux, c'est parce que comme lui va le chercher précisément dans les tréfonds de l'histoire. De l'autre côté, si on est comme si on va jusqu'au bout du débat, je remarque sur un certain nombre de sujets, je prends l'exemple du sondage commandé par la LICRA, sur un certain nombre de sujets, sur le grand remplacement, une théorie d'un intellectuel français, enfin ça vient loin, mais de Renaud Camus, qu'on a pu retrouver dans les documents, dans les papiers, par exemple du terroriste qui a tué 80 musulmans dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Cette théorie du grand remplacement trouve un écho dans le pays.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, lui-même utilise un argument terrible, profondément populiste, qui dit « sortez dans la rue ». Allez dans le métro et vous verrez que le grand remplacement est déjà en marche. Tout ça n'a rien de scientifique, mais en tout cas, il fait appel aux pulsions. Pareil sur le fait que nous sommes un pays de race blanche, je mets des guillemets. Tout ça a des échos à ce qui s'est passé aux États-Unis ou sur la confusion entre islam et islamisme, entre islam et terrorisme. Avec d'ailleurs quelque chose qui n'est pas suffisamment marqué, c'est qu'il a dit au fond le vrai musulman. C'est celui qui est dans le box des accusés, des attentats du 13 novembre. C'est lui le vrai musulman. Et mêlant dans un seul élément tous les musulmans. Alors là, il dit qu'il a peur de la guerre civile, mais il crée les conditions sur ce type de phrase, même s'il cherche à se modérer, évidemment, pendant la campagne électorale. Là, il crée les conditions.
Si Zemmour était élu, on serait pas loin de la guerre civile.
Attention, parce que.
Il y a des haines quand même dans ce pays.
Oui, mais attention. D'abord, elle est là, la haine aussi.
Même s'il n'est pas élu, il y a des haines qui ont été attisées.
Les problèmes sont là depuis longtemps, mais.
Oui. Ah, vous aviez parlé de l'apartheid, vous aviez dit quand même.
Attention aux conditions à privilégier. Alors là, je parle du macronisme, enfin, ou de la République en marche, ou du président actuel, de privilégier forcément un second tour entre Emmanuel Macron, pardon, et l'extrême droite, y compris parce que Le Pen apparaît aujourd'hui comme modéré par rapport à Zemmour, c'est d'ailleurs l'un des effets de sa campagne, de privilégier cela pour gagner plus facilement au second tour, parce que les conditions politiques, enfin, les conséquences de cet affrontement avec ce discours-là, pour le pays qui va déjà pas bien, ses conséquences ne seront pas remises. Vous avez entièrement raison.
Ce qui est très intéressant dans le livre du Premier ministre, c'est que ça nous donne en quelque sorte le logiciel de Zemmour. Parce que l'extrême droite, elle a toujours été falsificatrice et elle construit sur la peur. Ça a toujours été comme ça, quoi. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il falsifie le présent pour amener le futur, et pour ça aussi, il falsifie le passé. Je m'explique. Si on regarde ce qu'ils reprochent pour la gestion de la Covid-19, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dictature sanitaire, vous faites peur aux gens, vous usez de la Covid pour éviter de parler des vrais problèmes, entre parenthèses, l'immigration. Donc, on reproche au gouvernement actuel de construire sur la peur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous parle de grand remplacement, il nous parle de péril imminent, il nous parle, en fait, d'un péril tel que lui seul pourrait sauver la France, parce que quelque part, il est l'architecte de cette chose-là.
De cet élément, oui. Aussi.
Voilà, et il falsifie le passé pour, en quelque sorte, valider l'intérêt du nationalisme pour ramener le nationalisme demain. Et c'est comme ça qu'il va parler de Pétain, qui aurait sauvé les Juifs français, etc. On efface un certain nombre de choses pour rendre le nationalisme sexy, presque, quoi. Et pour le rendre utile par rapport à cette théorie du remplacement. Et ce livre est très intéressant parce qu'il donne ces clés-là, quoi, quand on le lit.
Une question.
La seule chose, juste en termine, c'est que, et on en parlait dans l'émission, la question qu'on se pose quand même, c'est, et la responsabilité de Macron dans tout ça?
Ou la vôtre?
Cette émergence de l'extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, est-ce qu'elle signe pas l'échec des politiques républicaines?
Ah oui, bien sûr. En tout cas, en grande partie. Ça va de soi, de toute façon. Alors, Laurent Joly le dit dans l'introduction de son livre, l'historien qu'évoquait Barbara Lefebvre, je souligne aussi, jamais, il y a toujours des courants déclinistes, des courants nationalistes, mot inventé d'ailleurs plutôt par Barrès, il y a toujours eu ce sillon. Et d'ailleurs, Maurras, qui était aussi un grand intellectuel, a irrigué beaucoup la pensée. De Gaulle, Mitterrand faisaient référence à cela, mais... Mettons de ce côté-là, parce que De Gaulle, en tout cas, a rétabli la République et la démocratie. C'est la petite différence avec Pétain, je le dis évidemment en souriant. Mais jamais, en termes électoraux depuis 30 ans, mais surtout en termes d'enquête d'opinion, jamais l'extrême droite, ce courant national populiste, et on prend d'autres expressions, n'a été aussi puissant. Donc, l'autre responsabilité, celle des républicains, celle de la gauche et de la droite, et donc notre responsabilité collective, elle est évidemment engagée. La question du récit historique, le fait qu'on n'a pas répondu à un certain nombre de craintes et de peurs depuis longtemps, la réalité des quotidiens, une absence de courage, je le souligne, je l'ai suffisamment souligné dans un ouvrage précédent que j'étais venu présenter ici il y a presque un an, il y a la responsabilité aussi d'une partie de la gauche qui a alimenté ce retour au fond d'une forme de fierté, de continuité historique, tout ce courant qui vient des États-Unis, de déconstruction de notre propre histoire, des conséquences aussi du nouveau féminisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer de l'autre côté et s'en prendre aux femmes comme il le fait, parce que c'est un des éléments. Mais évidemment, les pôles de radicalité ou la tenaille identitaire, évidemment, s'alimentent.
Mais moi, j'ai une question plus personnelle à vous poser. Ça y est, vous avez replongé.
Oui, bien sûr. D'abord, alors moi j'ai une passion intellectuelle, c'est au moins l'avantage du retrait par mes lectures depuis toujours, passion de l'histoire, une passion de mon pays, donc c'est ma manière plutôt de replonger, de rentrer dans le débat.
Sans doute oui c'est ça, c'est une façon de rentrer dans le débat, mais vous avez de nouveau envie d'agir en France politiquement.
Oui, j'ai envie d'agir, mais je ne sais pas comment. Vous savez, il faut être franc.
Vous ferez campagne avec pour Macron?
Je n'ai pas dit ça.
Non, mais je vous pose la question.
Dans le livre.
Non, mais je vous pose la question. Vous ferez campagne pour Emmanuel Macron?
Je ne crois pas. Je n'en sais rien.
Vous n'en savez rien. Non, c'est pas exclu.
Alors, comment pourrait passer justement cette action
dans le livre? Alors là, on est plus dans la politique. Je dis que quel que soit le président de la République, je me situe dans l'hypothèse Macron-Pécresse. Parce qu'on ne sait jamais dans cette situation politique. Quelle que soit l'hypothèse, au mieux, ils seront élus. Enfin, chacun entre 17 et 23 ou 24%. Je crois qu'il y a deux enjeux, on voit bien dans cette campagne présidentielle, c'est la recomposition des droites pour aller très vite, et l'autre c'est celle du président seul face au peuple. Et donc, si on ne trouve pas une autre méthode de gouverner, vous l'avez un peu évoqué dans le débat avant, qui soit pas cette solitude dans l'exercice du pouvoir après l'effondrement des partis politiques, et si on ne règle pas 4-5 sujets, alors je les prends dans le désordre, l'investissement dans le nucléaire, ce sont des milliards pour le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire, des questions lourdes comme les retraites, peut-être la question du mode de scrutin, c'est moins important, mais ça me paraît aussi un élément essentiel. L'immigration, une question à la fois française et européenne, etc. Mais 4-5 sujets, pas dans un même gouvernement, pas d'une fausse unité nationale, mais une unité nationale, une union sacrée, qui repose sur de véritables compromis.
Vous pourriez
compromis.
Participer, ça.
Oui, ça m'intéresse dans le débat. Moi, je suis un politique, je mourrai politique, c'est ainsi, je réfléchis, je pense politique. Après, il faut être lucide. De toute façon, c'est pas moi tout seul, je suis pas candidat à des élections législatives, je ne suis pas en train d'arriver. Après, ça dépend des uns des autres.
On peut imaginer que, par exemple, une Valérie Pécresse ou un Emmanuel Macron, d'ailleurs, vous avez appelé à voter Pécresse au régional.
Exactement. Oui, parce que je ne concevais pas ce rassemblement de ces gauches irréconciliables entre, mais pas n'importe qui en plus, entre Clémentine Autain, les Verts et les socialistes.
D'accord, mais j'imagine des personnes de bonne volonté qui finalement se mettent d'accord sur les 4-5 dossiers. Mais c'était la promesse de Macron, c'était la promesse En Marche. On va réunir les gens de raison, de gauche, de droite, qui sont finalement d'accord sur l'essentiel, l'Europe, etc., l'économie, et on va régler les problèmes. Et on voit que 5 ans après, finalement, les problèmes n'ont pas été réglés, puisqu'on a vu aussi Marine Le Pen et Zemmour additionner.
Le parti unique de la majorité, ça ne marche pas. Et tout le monde dans le même gouvernement, je ne suis pas sûr que ça marche. Moi, je crois qu'il faut plutôt travailler sur des compromis de fond et dans la durée. Question des retraites, après ça dépend du niveau de chômage, de l'espérance de vie, de ceux qui ont commencé à travailler très tôt, donc il y a des éléments qu'il faut intégrer. Mais ça a été un échec de ce quinquennat, en tout cas n'a pas pu se faire. La réforme par points, je trouvais plutôt intéressante, n'a pas été comprise, c'est le moins que l'on puisse. Mais ça, c'est des réformes de longue durée. Mais sur le nucléaire, ce sont des milliards qu'il faut investir pour maintenir les centrales actuelles, pour en créer de nouvelles. Et évidemment, derrière cela, il y a la recherche, l'innovation, et c'est essentiel.
Mais la recherche, l'innovation, c'est Monsieur Macron qui a mis fin au programme Astrid, par exemple. D'accord.
Oui, mais il faut bien dire que sur ce sujet-là, il y a eu des investissements qui ont été réalisés. Les budgets de la recherche et l'innovation sont élevés. Mais j'ai remarqué qu'hier, il a fait un discours, je ne sais pas s'il a été commenté, mais important sur la question de l'université, qui était, je crois, un des grands enjeux.
Mais en tout cas, monsieur Valls,
Madame Le Fèvre,
toutes ces questions-là, excusez-moi, dans le contexte institutionnel qui est le nôtre, avec un quinquennat qui a tué le fondement et la sève de la Ve République, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que l'exercice solitaire du pouvoir, il est intrinsèque aux modifications produites par le quinquennat. Le quinquennat, avec l'alignement avec le calendrier législatif, ça donne effectivement trop de pouvoir à un président sans rien au milieu du mandat qui puisse à un moment donné redonner du souffle démocratique. Donc on pourra continuer, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu Macron qui en plus, en raison d'un certain nombre de crises, a accentué cette pratique solitaire du pouvoir qui en plus va très bien avec sa personnalité parce que lui-même est un homme solitaire. On voit bien là le danger et la réforme institutionnelle, elle n'est pas là et elle n'est proposée par personne.
Il n'a pas gagné les législatives même s'il gagne les présidentielles.
Bah, nous sommes sans doute à la limite de quelque chose, mais comme on est en pleine élection présidentielle, moi je ne sais pas s'il y aura des propositions de modifications institutionnelles, mais en tout cas la méthode elle doit changer radicalement.
Et la proportionnelle intégrale?
Ah, moi je pense que ça fait partie en effet du débat sur lequel il faut arriver.
C'est essentiel.
Je pense qu'il faut. J'y étais très opposé. Je garde un doute, mais il est évident que dans l'accord pour qu'il y ait une représentation de ce qu'est la réalité politique et puis une proportionnelle par département, a son caractère aussi majoritaire, en tout cas dans les petits départements. Donc, c'est un des éléments. Mais en tout cas, travailler entre formations politiques, mais aussi avec les forces sociales, mais aussi avec les élus, ça me paraît incontournable.
Merci Manuel Valls, Zemmour, l'anti-républicain, aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve lundi, 9h midi, Didier Giraud, Charles Consigny, Stella Kamga. Passez un bon week-end. Demain, coup d'envoi à 6h des nouvelles matinales week-end sur RMC avec Mathieu Rouault. Mais le débat continue avec Estelle Denis.